Cet après-midi, je vous propose un partage sur le thème de la bienveillance et la compassion. Une réflexion qui est dans les grandes lignes basée sur le livre de Pema Chödrön, Pour faire la paix en temps de guerre. La méditation, ça concerne pas seulement la paix intérieure, ça concerne aussi l'ouverture du cœur. C'est même l'essentiel du travail. Nous ouvrir à l'imperfection du monde, laisser le cœur s'incliner devant tout cet inaccompli à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Au cœur de la pratique, il y a un cœur qui est vibrant, qui est engagé, mais qui n'est pas submergé ou pris par les émotions qui se manifestent. Et dans les enseignements du Bouddha, la question de la guerre, de la violence, de la souffrance collective, elle peut être abordée à partir de la compréhension fondamentale de la première vérité, qui est la vérité de la souffrance. En pali, c'est dukkha. L'insatisfaction, les difficultés qui sont inhérentes à la condition humaine. Et le Bouddha a dit, il y a la souffrance, elle a un commencement et une fin, et il y a une voie qui permet d'en sortir. Voilà tout ce que j'enseigne. Et une grande partie de l'exercice de la méditation, ça va consister à nous approcher de cette réalité, à apprivoiser l'incertitude et l'instabilité des choses. Bien vouloir apprendre, même quand ça fait mal. La souffrance du monde, d'après le Bouddha, c'est pas une erreur, c'est juste une réalité. C'est moche, c'est pénible, le dukkha du monde, ça fait mal. Et il s'agit pas de nier toute cette folie, mais simplement d'en prendre conscience et de chercher un moyen de comprendre. Un moyen d'en sortir ou de ne pas se laisser prendre. D'après l'enseignement du Bouddha, la violence, elle est causée par ce qu'il appelle les trois poisons de l'esprit. Il y a l'avidité, il y a la haine et puis il y a l'ignorance. C'est des forces qui agissent à l'intérieur de nous, mais qui agissent aussi dans les sociétés. Et dans cette lecture, la guerre, c'est pas seulement un événement politique, c'est aussi l'expression collective de ces états d'esprit, de ces états mentaux. Et elle commence dans l'esprit. Thich Nhat Hanh, qui a vécu la guerre du Vietnam, il disait que la racine de la guerre, elle est dans notre manière de voir et puis de penser. Et pour lui, la pratique spirituelle, c'était avant tout désamorcer la violence à l'intérieur avant qu'elle se répande à l'extérieur, avant qu'elle devienne collective. Il parlait de bouddhisme engagé, de méditer et agir pour la paix. Et il était vraiment convaincu que la seule réponse valable à la violence et à la haine, c'était la réponse du cœur. Et ça veut pas dire être passif, ça veut juste dire pas laisser la violence du monde créer la même violence à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Le Dalai Lama, il dit souvent que ceux qui causent la guerre, ils agissent sous l'emprise de l'ignorance et sous l'emprise de la peur. Il n'y a pas de fautif, il y a seulement l'ignorance. Alors ça justifie pas les actions, c'est pas approuver les actions, c'est juste comprendre que l'ignorance est à la racine et que la haine ne fait que perpétuer le cycle de la violence. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle les qualités du cœur, les brahmaviharas, elles interviennent. Il y a la bienveillance, qu'on appelle metta en pali. Il y a la compassion, karuna. Il y a la joie, mudita. Et puis il y a l'équanimité, upekkha. Et face au chaos à l'extérieur, la pratique, elle va consister à garder ces qualités du cœur vivantes, même quand c'est difficile. Rester présent à toute cette souffrance, à l'intérieur, à l'extérieur, chez l'autre, sans fermer notre cœur. Pas s'en détourner, mais pas non plus la porter seule dans notre esprit. Quand le monde devient chaotique, la pratique va consister à rester avec l'inconfort plutôt que de chercher immédiatement à fuir, à se distraire ou alors à se durcir. Et je vous lis une parole de Pema Chödrön. Si on pouvait survoler la terre comme un oiseau et observer tous les conflits qui éclatent, tout ce qu'on verrait, ce sont les deux côtés d'une histoire où tous croient avoir raison. Les solutions exigent donc un changement de disposition, c'est-à-dire assouplir ce qui est rigide dans nos esprits et dans nos cœurs. C'est dans le cœur des êtres que naissent la guerre et la paix. Et l'ouverture ou la fermeture du cœur a des conséquences planétaires. Dans la mesure où chacun d'entre nous désire la paix dans le monde, il faut alors assumer nos responsabilités lorsque nos cœurs et nos esprits se durcissent et se referment. Nous devons être assez courageux pour attendrir ce qui est durci, trouver le point sensible et rester dans cette vulnérabilité. Il faut avoir ce courage et ce sens des responsabilités. C'est ça la véritable pratique de la paix. On ne peut pas porter la souffrance du monde, mais on peut cultiver la paix à l'intérieur de nous pour ne pas devenir nous-mêmes une zone de conflit, un lieu de guerre. Ce qu'on peut faire, c'est agir avec bonté dans notre cercle de vie, éviter en tous les cas de faire du mal de manière intentionnelle, et puis surtout cultiver notre esprit. Apprendre à mieux nous connaître, mieux connaître le fonctionnement de notre esprit et mieux comprendre la souffrance. Et ça, c'est déjà transformer une petite partie du monde. C'est le Bouddha qui disait, comme une lampe allumée puis en allumer 1000 autres, la joie et la compassion peuvent se répandre sans diminuer. Donc la paix dans le monde, quelque part elle commence par la paix dans chaque conscience. Et quand on pratique la méditation, on n'arrête pas les tempêtes, on n'arrête pas les vagues d'émotions, mais on apprend à être une île stable au milieu des vagues. Et chaque fois qu'on fait ce travail de transformer la haine en discernement, la peur en compassion, eh bien le cercle de la violence se fissure un peu. C'est comme ça, en tout cas, que le Bouddha voyait l'action spirituelle. Travailler à la racine des causes de la souffrance. Et c'est complètement lié à cette compréhension et ouverture à Dukkha. Il y a la souffrance. Et je vous lis une petite histoire, celle du moine et du samouraï. Un jour, un samouraï, un guerrier redouté, rend visite à un vieux moine. Il entre brusquement dans le temple, pose la main sur son sabre et dit : On parle beaucoup d'enfer et de paradis. Dis-moi, existe-t-il vraiment ? Le moine le regarde calmement et répond : Qui es-tu ? Le samouraï répond fièrement : Je suis un samouraï, un guerrier au service de mon seigneur. Le moine éclate de rire : Toi, un samouraï, avec ce visage, tu ressembles plutôt à un mendiant. Le guerrier devient rouge de colère, il tire son sabre et le lève pour tuer le moine. Alors le moine dit doucement : Voilà l'enfer. Le samouraï s'arrête net, il comprend soudain que sa rage vient d'être exposée comme dans un miroir. Sa colère retombe, il remet lentement son sabre dans son fourreau et s'incline. Le moine sourit et dit : Et voilà le paradis. Dans la perspective bouddhiste, l'enfer, c'est pas un lieu, c'est un état d'esprit qui est dominé par la colère, dominé par la haine, dominé par l'ignorance. Et le paradis, c'est pas ailleurs non plus. C'est juste le moment où la conscience, elle s'éveille à la colère. La souffrance, elle vient souvent, en fait, de nos réactions mentales. Mais même dans un monde qui est rempli de violence, la guerre à l'intérieur, elle peut s'arrêter à chaque moment. Et c'est encore Thich Nhat Hanh qui disait : La paix n'est pas seulement un but, la paix est dans chaque pas. Donc quand on vient s'asseoir et puis qu'on tourne le regard vers l'intérieur, qu'on regarde notre chaos personnel avec ouverture, avec chaleur, avec peut-être un peu d'humour aussi, eh bien on s'offre la possibilité de l'accepter sans jugement. Et ça, ça permet d'observer nos émotions sans résistance, de les comprendre, de comprendre les pensées avec bienveillance et puis d'y faire face de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus calme et équilibrée. Le message du Bouddha, c'est que pour être un bon ami pour soi-même et pour les autres, il faut avoir touché en nous cet endroit où ça fait mal, cet endroit où il y a la souffrance. On doit accepter, on doit voir. On doit laisser être toutes ces énergies douloureuses, tout ce qui est limité, ce qui est blessé, inaccompli, vulnérable à l'intérieur. Et je voulais encore Pema Chodron. C'est seulement en apprenant à pleinement accueillir tous les aspects de notre personnalité, même les éléments apparemment les plus négatifs de notre esprit et de notre cœur, que nous apprendrons à pleinement accueillir autrui. C'est seulement en découvrant la bonté fondamentale de notre lotus comme de notre boue que nous en viendrons à percevoir la bonté fondamentale de tous les êtres vivants. face à ce qui fait mal, on peut facilement se braquer, ou alors s'effondrer, ou alors être dans le déni. Mais il y a une autre réponse qui est possible. C'est la réponse du cœur. Et ça commence tout bêtement quand on est assis sur le coussin et puis qu'on remarque qu'on est en train de penser ou qu'on est en train de dormir. La réponse du cœur, à ce moment-là, ça va être une sorte d'étonnement. Il y a quelque chose qui s'étonne, qui se rend curieux. Ça pourrait être une autre occasion de nous juger, de nous dénigrer, de nous décourager, mais là, on va choisir d'en faire une occasion d'apprendre à être un peu plus aimable ou un peu plus curieuse. Il y a présence ou absence de pensée, il y a présence ou absence d'énergie, comment c'est quand le corps est en train de s'endormir. La bienveillance, elle participe beaucoup à adoucir ce qui est à l'intérieur de nous pourrait être exigeant, pourrait être dur, jugeant. Et quand on peut reconnaître cette impatience envers les pensées, tout de suite, il y a quelque chose qui s'attendrit, il y a quelque chose qui s'adoucit. L'ambiance à l'intérieur, elle n'est plus tout à fait la même. On apprend tous à méditer avec des idées sur ce que c'est que d'être un bon méditant. On apprend tous à méditer avec des frustrations, des essais à répétition. Mais la vraie acceptation, elle exige qu'on examine tout ce qui se présente à nous, y compris les pensées. Méditer, c'est pas seulement quand les choses sont calmes. Et la conscience qui fait l'expérience d'une pensée, c'est autre chose que d'être perdu dans l'histoire. Ce que nous dit le Bouddha, c'est que notre conscience, c'est notre plus grand trésor. On le possède déjà, mais en fait, on ne le sait pas. Je vous lis un petit extrait ou une parole d'un lama, Gendun Rinpoche. Ça s'appelle « Comme un arc-en-ciel ». Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et dans l'abandon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance parce qu'il n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber sans rien changer, et tout s'évanouit et commence à nouveau sans cesse. Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là et t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences bonnes ou mauvaises, elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors profites-en, tout est à toi déjà. Ne cherche plus, ne va pas chercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir et tout s'accomplit spontanément. Quelque part, le seul moyen fiable de nous libérer de la souffrance, c'est de ne pas chercher à nous débarrasser du problème. L'invitation du Bouddha, c'est de sentir les choses comme elles apparaissent, pas dans le but qu'elles deviennent autre chose et pas non plus les sentir avec ressentiment, simplement les découvrir à travers nos sens. C'est en ça que la méditation, elle est un bain de matière. Et le principe de base dans la pratique, ça va être d'être avec les choses comme elles sont. L'idée, c'est pas de faire un effort pour devenir meilleur ou changer un comportement, supprimer un comportement ou une habitude. L'intention, c'est de connaître et de faire l'expérience de la colère, de la peur, de l'impatience, de la jalousie. Donc, être avec notre réactivité quand elle émerge. Et ça ne veut pas dire qu'on va l'agir, juste qu'on est présent et qu'on lui fait l'espace. On expérimente toute cette palette d'émotions sans les exprimer, sans les réprimer, sans les juger non plus. Et c'est ce qui permet la transformation et le lâcher prise. Et si on en revient à ce qui se passe dans le monde, là maintenant, à ce qui est dukkha, ce qu'on peut voir, c'est que les circonstances à l'extérieur, elles ne cessent de changer. Les grandes questions sur le destin du monde, elles ont toujours existé, elles vont continuer d'exister. Mais la première urgence, ça va être de comprendre et de transformer la souffrance ici. Ça veut dire dans ce corps, dans cet esprit et maintenant. Il y a cette image que le Bouddha utilise parfois pour parler des quatre nobles vérités, c'est l'image de la maladie. La première vérité, c'est que la situation, elle laisse franchement à désirer. Il y a la souffrance. Ça, ce seraient les symptômes. Qu'on peut voir qui est difficile, douloureux, qui fait mal. La deuxième vérité, c'est les causes de la souffrance. Qu'est-ce qui est à l'origine de la souffrance? Ça, c'est le diagnostic. La troisième vérité, c'est la bonne nouvelle. Il y a un chemin possible pour sortir de ce cycle de la souffrance. C'est la vérité de la cessation, c'est le pronostic. Et puis la quatrième vérité, ça va être la prescription. Le Bouddha décrit tout un chemin qui nous permet d'être avec les choses d'une manière plus équilibrée. Et si on reprend cette image, ben quand on est malade, il vaut quand même mieux le savoir. Parce que si on refuse de le regarder, et ben au bout du compte, on va finir par mourir. Ce sera trop tard. Tant qu'on ne veut pas voir, on perpétue en fait le cycle de la souffrance. Donc il s'agit d'abord d'avoir une grande lucidité sur les conditions qui sont les nôtres. Arrêter de fuir la souffrance et puis chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut s'en sortir. La bienveillance et la compassion, elles s'appuient d'abord sur cette connaissance de ce que c'est que cette expérience d'être un être humain. Tout n'est pas parfait et par moments, il y a la souffrance dans nos vies et dans le monde. Et il nous faut traverser ça. Dans l'énergie de la compassion, il y a un espace d'accueil qui est silencieux et compréhensif par rapport à ce qui fait mal. On arrête de lutter pour se débarrasser, réaliser ou accomplir. On renonce à la perfection, à notre désir de solutionner ou résoudre les choses, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. La compassion, c'est pas s'apitoyer sur notre sort ou sur le sort de l'autre, c'est pas non plus prendre la souffrance de l'autre pour le porter. C'est plus subtil que tout excuser ou alors se répandre sur le malheur du monde. Ça demande de voir et d'accepter le bon et le douloureux. Ça demande de briser toutes les représentations qu'on peut avoir de la souffrance pour supporter la réalité de la souffrance dans nos vies. J'ai une parole, mais je ne sais pas de qui elle est. Ça parle de la peur. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui qui font que nous nous fermons, que nous ne voulons pas voir, pas entendre. C'est facile de se fermer face à la souffrance, c'est une protection. Le plus grand danger de notre temps n'est pas le changement climatique, les armes nucléaires, la pollution du sol, de l'air ou de la mer, la misère de plus de la moitié de la population mondiale, la disparition des espèces. Le plus grand danger est dans l'engourdissement de nos cœurs et de nos esprits. Cela ne vient pas de l'indifférence, mais de la peur. Nous avons peur de ne pas pouvoir tout supporter. Nous avons peur d'être emprisonnés dans la peine de manquer et nous avons peur de souffrir. Si nous n'y prenons pas garde, nous restons prisonniers de nos peurs et nous vivons tout petits. En termes de bien-être et de mal-être, ce qui est essentiel, c'est comment les choses sont rencontrées. Comment est-ce qu'on rencontre l'agréable? Est-ce qu'il y a de l'attachement, la peur de perdre, le désir de conserver? Comment est-ce qu'on rencontre le désagréable? Est-ce qu'on le rencontre avec calme, avec courage? Est-ce qu'il y a de l'évitement? Est-ce qu'il y a de la peur, du ressentiment? Est-ce qu'il y a du soin? Comment est-ce qu'on rencontre le neutre, avec ennui, avec confiance, avec équilibre, avec aversion? En fait, juste voir comment on le fait et voir comment le moment désagréable, il est multiplié par la réactivité, par l'irritation, par l'aversion. Comment quand j'ai mal à mon genou, la douleur physique devient une souffrance morale quand je me lie mentalement à l'expérience et que je cherche à échapper à cette souffrance. J'entre en lutte contre la douleur. Et le voir avec beaucoup de bienveillance et de compassion. C'est important de réaliser le coût de la réactivité et puis de comprendre que finalement tout est dans l'esprit. qu'à chaque instant, on a le choix, en fait, de nous laisser envahir par l'aversion, par le jugement, et puis de rajouter des difficultés. Ou alors de cultiver la conscience et de patiemment souffrir notre peine. On peut soit s'ouvrir, soit se fermer, s'accrocher ou bien lâcher, s'endurcir ou s'attendrir. Et ce choix, il nous est proposé à chaque moment, en fait. La joie et le bonheur, la paix intérieure, le sentiment d'harmonie et d'être à l'aise avec soi et dans ce monde naissent de la capacité de rester immobile avec les énergies changeantes, de les laisser être, s'installer et se dissiper. Ça, c'est Pema Chodron. Et parfois, c'est possible de laisser être, de plonger dans la sensation physique, dans cette mer déferlante. Et puis parfois, c'est pas possible. Ça fait trop mal, ça fait trop peur, il y a trop de colère ou d'aveuglement. Et ça, c'est aussi à respecter. Ça prend beaucoup, beaucoup de patience de s'accompagner mieux dans les difficultés. Et parfois, il n'y a rien à faire que juste attendre que l'énergie change. Le monde a toujours traversé des périodes de confusion, de violence, d'effondrement. Mais chaque instant où un être humain choisit la conscience plutôt que la haine, eh ben ça change légèrement la direction du monde. En tout cas, j'aime bien penser que ça peut avoir un impact. C'est une transformation discrète, mais dans la vision bouddhiste, c'est la transformation la plus réelle. Je vous lis un poème de Robertson Ward que j'ai découvert il y a 2 ans quand je suis allée en retraite en France avec Sophie Boyer. Ça dit: nos décisions et actions ont créé ce monde. Nous pouvons en inventer un autre différent. Que la transformation commence par moi. Je plonge en moi, dans mon propre corps, dans mes émotions et mon esprit. J'affronte mes démons et mes peurs. Je fais face à ma colère et à ma haine, à mon arrogance et mon avidité, et je lâche prise. Je lâche prise et en échange, je reçois un nouveau monde. Un monde de confiance et de joie, un monde de bonheur et de sagesse, un monde de compassion et de bienveillance, un monde d'acceptation et de gratitude, qui a le goût de la fraîcheur, ici et maintenant. il n'y a rien à changer dans ce qui arrive. Simplement reposer dans la conscience universelle. Simplement être avec les choses. Et dans la présence bienveillante, il n'y a pas de mouvement pour échapper ou aller vers quelque chose de meilleur. Il y a juste cette capacité d'être avec les choses comme elles sont. Imparfaites, changeantes et pas si personnelles que ça. On laisse l'espace à la bienveillance et au cœur de se dire. On lâche prise et on se laisse porter par le courant de la vie. Et cette ouverture, cette liberté du cœur, c'est vraiment ça qu'on entraîne quand on vient s'asseoir, quand on va marcher. Quand on s'efforce d'être présent à tout ce qu'on fait, moment après moment. C'est cette inébranlable paix du cœur qu'on cultive petit à petit. Un cœur qui est plein de bienveillance, plein de compassion et qui est prêt à tout recevoir. Apprendre à aimer le désagréable. Finalement, c'est ça, hein. C'est à ça qu'on s'entraîne.